SBS Radio.
Dans l'actualité de ce samedi 28 septembre 2019, en Australie, l'Église catholique condamnée à verser plus d'un million de dollars en compensation à un homme violé à l'âge de 9 ans par le prêtre pédophile Gérard Rysdale. À l'étranger, l'Égypte, plusieurs manifestations contre le président El-Sissi rapidement dispersées, tandis que ses supporters sont également descendus dans la rue. Et puis enfin en France, l'hommage à Jacques Chirac après la mort de l'ancien président. Hommage qui va durer plusieurs jours, rassemblement attendu dimanche aux Invalides, puis lundi, journée de deuil national en France, avec une cérémonie dans l'église de Saint-Sulpice à Paris, en présence d'Emmanuel Macron, le chef de l'État. Et puis nous, on rendra hommage aussi à Jacques Chirac, avec une rétrospective sur ses moments phares, juste après le journal, sur SBS en français. Tout d'abord, en Australie, on s'attend à ce que l'Église catholique verse plus d'un million de dollars en compensation à un homme qui a été violé à l'âge de 9 ans par le prêtre pédophile Gérard Rysdale. La condamnation historique de la Cour suprême de l'État de Victoria est la première affaire civile dans laquelle l'Église a reconnu sa responsabilité pour les abus sexuels commis par l'un de ses prêtres. L'homme, connu sous le nom de JCB, a consacré le paiement à d'autres victimes d'abus commis par le clergé qui se sont suicidés. On écoute l'avocat de la victime, le docteur Judy Curtin, au micro de la ABC.
We haven't had admissions of liability before. When we first started this case in the Supreme Court, the diocese was in fact denying that it had prior knowledge that it had that it was liable, and we've had to drag them through 18 months almost of the court process to basically force them to admit that yes, they did have that knowledge.
Et puis Gérard Rysdale a admis avoir agressé des centaines d'enfants alors qu'il était muté d'une paroisse à l'autre dans le Victoria. Il a déjà purgé 23 ans de prison et pourra accéder à la libération conditionnelle en 2022. La ministre australienne des Affaires étrangères, Mary Spain, a fait part à son homologue bulgare de ses préoccupations concernant la détention en cours de l'Australien Jock Palfreyman. Le jeune homme de 32 ans a été libéré sous caution la semaine dernière après avoir purgé 11 ans de prison pour homicide. Mais il n'a pas encore pu quitter le pays en raison de problèmes d'immigration. Et le Premier ministre australien Scott Morrison était réticent à discuter des mesures prises par l'Australie pour aider Palfreyman. On l'écoute.
Foreign Minister is engaging directly on these matters, and like in any of these very sensitive consular cases, they are never assisted by public commentary. We are directly engaging with the government, and the Foreign Minister is doing that with her counterpart, and it's best that there's no further commentary on these issues. It never helps resolve these situations.
Et puis en Bulgarie, les manifestants ont exprimé leur colère contre la libération de Palfreyman. Un petit groupe se tenait aux côtés du père de la victime, Andrei Monov, avec des pancartes critiquant le président du jury qui avait pris la décision de libérer Palfreyman 9 ans avant sa peine de 20 ans d'emprisonnement. On écoute Nina Papushkieva, une amie de la famille de la victime.
Look, there is nothing more painful than losing your child. This is so wrong and unjust to kill somebody and be released in a few years. There is nothing more wrong than this.
À l'étranger maintenant, des manifestations sporadiques ce vendredi en Égypte où des rassemblements favorables au pouvoir ont aussi été signalés. La semaine dernière, le pays a connu des rassemblements inédits contre le pouvoir du président Abdel Fattah El-Sissi. C'est un Égyptien en exil qui a initié ce mouvement en dénonçant la corruption du pouvoir. Nicolas Falaise sur RFI.
Cet entrepreneur égyptien en exil, Mohamed Ali, avait appelé à une marche du million de manifestants ce vendredi. Mais les mesures prises par les autorités ces derniers jours ont de quoi décourager ceux qui veulent dire leur opposition au pouvoir actuel. Au Caire, le centre-ville a été bouclé et quadrillé par les forces de l'ordre. La place Tahrir, lieu de toutes les contestations depuis la révolution de 2011 en Égypte, a été fermée à la circulation. Par ailleurs, suite aux manifestations de la semaine dernière, 1000 à 2000 personnes, selon les sources, ont été arrêtées, de jeunes manifestants, mais aussi des figures de cette opposition libérale qui tente d'exister en Égypte malgré la répression. Toutefois, selon des informations recueillies par RFI, des rassemblements sporadiques ont eu lieu ce vendredi et des tirs de gaz lacrymogène ont été observés dans au moins un quartier du Caire. Un peu plus tôt dans la journée, le président Abdel Fattah al-Sisi s'était exprimé, estimant, je cite, qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter des appels à manifester dans son pays.
Et puis aux États-Unis, les démocrates souhaitent que la procédure de destitution à l'encontre du président Trump se déroule rapidement. C'est ce qu'a déclaré Nancy Pelosi vendredi matin dans la première interview qu'elle a accordée depuis le lancement de la procédure. La chef de la majorité à la Chambre des représentants n'a pas mâché ses mots contre l'administration Trump. Correspondance à Washington, Dan Corpé pour RFI.
Pas de calendrier précis, mais une volonté d'aller vite dans la procédure. Il ne faut pas que cela traîne, a déclaré Nancy Pelosi à MSNBC. La chef de la majorité démocrate à la Chambre, qui pendant des mois a fait barrage contre la destitution, estime que cette fois, elle n'avait pas d'alternative.
C'est un moment très triste pour les États-Unis. Le président des États-Unis a trahi son serment, mis en péril notre sécurité nationale et l'intégrité de nos élections. Il ne nous a pas laissé le choix.
Nancy Pelosi n'épargne pas non plus le département de la justice qui a tenté d'empêcher le directeur national des renseignements de transmettre au Congrès la plainte du lanceur d'alerte.
Je pense qu'ils essayent de cacher qu'ils ont étouffé l'affaire et c'est vraiment triste d'avoir un département de la justice si dévoyé. Il l'était depuis un moment, mais cela empire.
Donald Trump, lui, continue d'assurer que l'échange téléphonique au cours duquel il a demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden était approprié. C'était une conversation parfaite, a-t-il tweeté dans la matinée, tout en lettres majuscules.
Et puis la commission parlementaire a demandé au secrétaire d'État Mike Pompeo, qui est un proche de Donald Trump, de leur livrer les documents concernant l'Ukraine afin d'accélérer justement cette enquête. Et puis en France, passé l'annonce de sa mort et les premières réactions, l'heure est donc à l'hommage à Jacques Chirac. Après la disparition de l'ancien président à l'âge de 86 ans, hommage qui s'annonce multiple, on va tout de suite en faire le détail, plusieurs programmes pendant les prochains jours. On écoute Lucie Bouteloup pour RFI.
Premier temps fort de cet hommage, dimanche, avec une cérémonie populaire organisée aux Invalides à Paris vers 14h. Une cérémonie en équation avec la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français. Un temps, comme l'a indiqué son gendre Frédéric Salabarou, où tous ceux qui l'ont aimé pourront venir se recueillir auprès de son cercueil. Les obsèques, elles, devraient avoir lieu le lendemain au cimetière du Montparnasse. Une cérémonie prévue cette fois dans la plus stricte intimité et pendant laquelle l'ancien chef d'État sera inhumé dans le caveau où repose déjà sa fille aînée Laurence, décédée en 2016. Autre temps fort de cet hommage, une journée de deuil national a été décrétée ce lundi. Un service solennel sera également rendu ce jour-là à 12h dans l'église Saint-Sulpice, située dans le 6e arrondissement de Paris. Ensuite, à 15h, une minute de silence sera observée dans toutes les administrations et les écoles. Les professeurs sont également incités à faire un cours spécial sur Jacques Chirac. Et puis, pour ceux qui souhaiteraient rendre un hommage plus personnel, les portes de l'Élysée restent ouvertes jusqu'à dimanche pour écrire dans les livres d'or. Enfin, le week-end suivant, un hommage lui sera également rendu en Corrèze, mais on ignore encore si Emmanuel Macron sera présent.
Et les livres d'or qui connaissent un véritable succès à l'Élysée, depuis jeudi déjà, plus de 1700 personnes se sont rendues au palais présidentiel. Et parmi elles, Edith, nostalgique des années Chirac.
Ça rappelle comme des souvenirs d'une certaine époque. Quand on voit toutes les photos, tout ça, on se dit oui, c'était mieux avant en fait. Il symbolise une certaine idée de la France et puis une façon de vivre plus décontractée. C'était la belle vie quoi.
Et témoignages recueillis par France Inter. Et puis 48 heures après le décès de Jacques Chirac, donc les réactions continuent d'affluer. Emmanuel Macron s'était exprimé jeudi soir solennellement. Et a une nouvelle fois souligné vendredi, je cite, « l'énergie et l'humanité de l'ancien chef de l'État ». C'était à l'ouverture du Conseil des ministres. Hier également, la première réaction du chef du gouvernement à la mort de Jacques Chirac. Édouard Philippe, invité de RTL, et qui retient les qualités de l'ex-président, mais également ses parts d'ombre, on l'écoute.
Il a traversé la vie politique française pendant longtemps et en atteignant les postes les plus exigeants. Ça dit quelque chose, à la fois de son ambition et de sa force. Et de son énergie, que chacun constate et que tout le monde célèbre aujourd'hui, ça dit aussi quelque chose de sa dureté d'une certaine façon et de sa capacité à faire des choix, à écarter, à surmonter des difficultés. Et c'est aussi ça, Jacques Chirac.
Et voilà ce que retient Édouard Philippe de Jacques Chirac et l'hommage du monde du sport également. La Fédération française de football a annoncé qu'une minute de recueillement serait observée avant tous les matchs ce week-end. Et dans le domaine du football, il y a une réaction qui émerge, celle de Zinedine Zidane, l'ancien international français, aujourd'hui entraîneur du Real Madrid, ancien meneur des Bleus en 1998, l'année de la victoire en Coupe du Monde, une époque où Jacques Chirac était président de la République. Zizou avait alors eu l'occasion de le côtoyer et il en garde un très bon souvenir, on l'écoute.
Je suis triste, tout simplement parce qu'en plus je le connaissais personnellement. Il a été notre président, mais il a été surtout le président de tous les sportifs et l'ami de tous les sportifs. Je pense qu'il adorait les gens, pas simplement le milieu de la politique. Je pense qu'il adorait les gens, même les plus retirés dans les campagnes. Et il a toujours démontré ça. Et ce que j'ai envie de me rappeler de lui, c'est peut-être les petits moments qu'on a eu, ça le sortait de la politique, où il était content de parler d'autre chose. Et ça se sentait.
Voilà Zinedine Zidane au micro de France Inter. Et puis autre actualité française du jour, Aigle Azur qui disparaît des radars. Le tribunal de commerce avait jusqu'à ce vendredi pour prononcer ou non la liquidation judiciaire de la compagnie aérienne qui emploie 1150 personnes. Liquidation désormais qui est une réalité. Aucune offre de reprise n'a été retenue par le tribunal. Concrètement, cela veut dire que depuis minuit, aujourd'hui en France, Aigle Azur a officiellement cessé son activité et les salariés vont être licenciés. On écoute Pauline Glaise pour RFI.
La présidente du tribunal a estimé qu'aucune solution pérenne n'avait été proposée. Dans le détail, Sonia Arroise déplore les désistements ou les absences d'offres concrètes, l'absence de moyens financiers des candidats crédibles ou encore l'irrecevabilité de certaines propositions. Pourtant, deux offres de reprise étaient étudiées depuis plusieurs jours. L'une présentée par l'UAZUR, actionnaire minoritaire d'Aigle Azur, l'autre émise par deux anciens responsables d'Air France. Cette dernière offre était conditionnée à l'obtention d'un prêt participatif de 15 millions d'euros auprès de l'État. L'État, que des représentants de plusieurs syndicats avaient appelé quelques heures auparavant, a accordé un prêt relais de 35 millions d'euros pour sauver Aigle Azur et laisser une chance à ses 1150 salariés. Aigle Azur ne reprendra donc pas son envol, un désastre social pour le syndicat des pilotes. La CFDT, elle, regrette qu'un accord de performance collective n'ait pas pu voir le jour, mettant en cause le gouvernement et les entreprises. Cela devrait moins attrister Air France, qui s'était pourtant dans un premier temps intéressé au dossier. Ce vendredi matin, le directeur général d'Air France KLM estimait qu'une consolidation, une réorganisation du secteur serait une bonne chose.
Hier, à l'Assemblée nationale.
Pour 55, contre 17, l'Assemblée a adopté.
Sous les applaudissements, l'adoption de la mesure phare du projet de loi bioéthique par l'Assemblée nationale, cette mesure qui cristallisait le mécontentement de la droite, qui concerne l'ouverture à toutes les femmes de la PMA, la procréation médicalement assistée, actuellement qui est réservée uniquement aux couples hétérosexuels et qui donc désormais va être élargie aux femmes célibataires, également aux couples de lesbiennes. Isabelle pourrait être concernée. Isabelle, membre de l'association des parents gays et lesbiens, déjà mère d'une fille avec sa compagne. On écoute sa réaction au micro de France Inter.
C'est une vraie très grande avancée en termes d'égalité des droits. Nous, on n'a pas pu le faire en France, donc on a dû se renseigner sur tout ce qui était possible, prendre un peu les chemins de traverse et en l'occurrence, dans notre cas, aller jusqu'aux Pays-Bas pour pouvoir fonder notre famille. On essaye depuis un petit moment d'avoir un deuxième enfant. Peut-être, en fonction des listes d'attente et du temps que ça met à passer, peut-être qu'éventuellement, ça peut être un recours qui nous faciliterait la vie et nous donnerait une deuxième chance. Donc, peut-être. Et puis, si c'est pas pour nous, de toute façon, ça servira à banaliser un peu les choses pour le bien de notre famille et pour notre fille et puis pour toutes les autres familles concernées.
Et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, vise une adoption définitive du projet de loi avant l'été. Et puis en sport maintenant, se déroulent en ce moment les mondiaux de Doha en athlétisme. Une qualification aisée pour les demi-finales pour le sprinter Jimmy Vico sur 100 mètres. Et puis Alexandra Tavernier s'est qualifiée, elle, pour les demi-finales du marteau. Ninon Guillon Romain s'est qualifiée, elle, pour la finale de la perche. Et puis en Australie, pour la première fois en 25 ans, les attaquants de Canberra sont revenus à la grande finale du NRL. Vaincre South Sydney, les Rabbitohs, 16 à 10, ont bloqué la place des Riders en finale dimanche prochain. Cette victoire marque un revirement majeur pour l'équipe de Canberra qui n'a pas disputé de phase finale depuis 2016 et pour son entraîneur, Ricky Stuart, qui n'a pas remporté de finale préliminaire depuis 2004. Stuart dit que cette victoire fait suite à des années de dur labeur et de défis pour les Riders. On l'écoute.
I couldn't be more prouder for those blokes in that change room in there. Now they've got the opportunity to create a little bit of their own history. We're only halfway there though. We've got another game to play and by no means will we looking too far ahead.
Et la météo maintenant de ce samedi 28 septembre, un temps mitigé mais de saison sur l'Australie, du soleil 25 degrés pour Perth. C'est ensoleillé avec 18 degrés pour Adélaïde, partiellement nuageux et 16 degrés pour Melbourne. Ça reste couvert, 15 degrés pour Hobart en Tasmanie. C'est plutôt ensoleillé avec 19 degrés sur Canberra, des nuages 17 degrés à Wollongong. C'est nuageux également avec 19 degrés sur Sydney. Les conditions similaires avec 21 degrés pour Newcastle. De la pluie attendue dans la journée, mais 30 degrés à Brisbane. C'est plutôt ensoleillé avec 30 degrés également pour Cairns. Et enfin du soleil, 34 degrés pour Darwin. Et en bourse, aujourd'hui pour un dollar australien, vous avez 0,65 US dollar, 0,59 euros et 0,52 livres sterling. On refait un point sur l'actualité de ce samedi 28 septembre 2019. En Australie, l'église catholique condamnée a versé plus $1 million en compensation à un homme violé à l'âge de 9 ans par le prêtre pédophile Gérard Rysdale. À l'étranger, l'Égypte, plusieurs manifestations contre le président El-Sissi rapidement dispersées aujourd'hui, tandis que ses supporters sont également descendus dans la rue. Et enfin en France, l'hommage à Jacques Chirac après la mort de l'ancien président. Hommage qui va durer plusieurs jours, rassemblement attendu dimanche aux Invalides et puis lundi, journée de deuil national en France avec une cérémonie dans l'église de Saint-Sulpice à Paris en présence d'Emmanuel Macron, le chef de l'État.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.